Puis c'est à Gatineau où on a passé le plus long laps de temps. Alors, on est des Gatinois. J'aimerais saluer tous les gens qui sont de passage ici à Gatineau. Et puis, je vais en profiter pour juste vous présenter des gens qui sont de visite chez nous. Alors, Jean-Michel, mon beau-frère, avec ma belle-sœur Evelyne. Alors, nos amis Raphaël et Anne-Marie. En tout cas, c'est plus leurs amis, mais comme nos amis par défaut. Alors, ils viennent de l'église de processus de reconstruction. Alors, si vous voulez des nouvelles fraîches, vous pouvez aller leur en parler. Avant de commencer par la prière, j'aimerais juste saluer mes nouveaux amis LinkedIn. Alors, Éric Lantier, bonjour, mon ami LinkedIn depuis ce matin. Et puis, Marc-Étienne Lauzon, mon ami LinkedIn depuis la semaine passée. Alors, merci. Alors, vous pouvez devenir mon ami sur LinkedIn. Alors, passons aux choses sérieuses. Je vais demander à Dieu de bénir le temps qu'on va passer ensemble. Oui, bon Père, nos cœurs sont par nature rebelles. Ils ne sont pas enclins à être transformés par ta parole. Père, tu envahis la salle. Ta présence nous entoure. Tu es en avant, en arrière, à droite, à gauche, au-dessus et en dessous de chaque personne ici. Et Père, rends-nous conscients de ta présence, de ta gloire, de ta magnificence. Et transforme-nous avec la vérité de ta parole. Cette vérité qui transperce les cœurs et qui donne la vie en abondance. Père, on aimerait te remettre cette matinée entre tes mains. Amen. Alors, j'ai fait une petite recherche pour trouver une illustration pour le message de ce matin. Et puis, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais c'est comique. Alors, l'histoire va comme ça. Il y a un petit garçon, sa grand-maman est en visite chez lui. Et puis, la maman du petit garçon lui dit, « Bon, mais c'est l'heure d'aller faire dodo, alors donne un bec à grand-maman, puis viens dans ta chambre. » Puis alors, le petit garçon est dans sa chambre, ses dents sont brossées, il est en pyjama, et puis sa maman prie avec lui. Et puis là, le petit garçon se met à prier. Il dit, en criant, il dit, « Dieu, tu sais que c'est ma fête bientôt. J'aimerais ça que tu me donnes un vélo rouge pour ma fête. » Alors, la maman du petit garçon lui dit, « Mais pourquoi tu cries comme ça? Dieu n'est pas sourd. » Alors, le petit garçon dit, « Dieu n'est pas sourd, mais grand-maman dans le salon, elle l'est. » Alors, vous avez probablement deviné, ce matin, j'aimerais vous parler de la prière. Alors, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Matthieu 6, au verset 9, le Notre Père. Alors, Matthieu 6, au verset 9. Matthieu 6, au verset 9, on lit ceci. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La prière est considérée par plusieurs comme une activité spirituelle sans égale. Par contre, la prière n'est pas toujours ce qu'elle a l'air d'être. Il y a parfois des choses très égoïstes, très charnelles qui se passent dans la prière. Prenez par exemple le petit garçon dans l'histoire. Plusieurs prières ne nous amènent pas plus proche de Dieu. Il y a un prédicateur, je crois que c'est Spurgeon, qui a dit « Il y a assez de péché dans la prière d'un homme pieux pour l'envoyer en enfer. » Et puis, c'est probablement pour ça que Jésus passe plus de temps dans les évangiles à nous enseigner sur les faux motifs dans la prière qu'il passe à nous enseigner à prier. Alors, Jésus nous fait réaliser, puis ça en passant, c'est mon big idea pour ceux qui ont pris le cours de prédication. La prière est une activité humaine qui est sujet à des pièges comme l'orgueil, des mauvais motifs, des mauvaises compréhensions, la cupidité, l'égoïsme. En fait, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être présentes dans la prière. Même parfois, dans la prière, nous demandons à Dieu de bénir nos mauvaises actions ou nos mauvaises décisions. Je vais toujours me rappeler, à l'université, j'étais un des responsables du groupe biblique universitaire, le GBU, et puis en jasant avec une des personnes qui était régulier, qui était très actif au niveau de l'évangélisation sur le campus, cette personne-là me dit « Mathieu, hier soir, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Hier soir, j'ai prié avec ma blonde et puis on s'est mariés devant Dieu et puis on a consumé notre mariage et puis maintenant on vit ensemble. » Dans la prière, on a eu la conviction que c'était correct de faire ça. On s'est mariés devant Dieu. Alors, c'est assez surprenant parce que la Bible est tellement claire là-dessus. Pensez également aux kamikazes qui se font exploser dans des autobus, dans des marchés. Et puis, ils font ça après plusieurs heures dans la prière. Pensez aux pharisiens qui faisaient de longues prières en public. Et quand le Messie est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont crucifié. Et puis, je me suis rendu compte que souvent, dans la prière, le soir avec les enfants, j'en profite pour leur passer des messages. Bon Père, aide Zacharie à se rappeler de fermer les lumières pour que ma facture d'hydro soit un petit peu moins élevée. Bon Père, aide José, Mathéo, à comprendre que des fois, on est pressé, puis il faut faire vite. Bon Père, aide Lily à comprendre qu'elle ne peut pas mettre des robes à tous les jours. Des fois, au lieu de prier à Dieu, j'envoie un message à mes enfants. Maintenant, j'aimerais que vous me compreniez bien. La prière est nécessaire, essentielle. Un chrétien qui vit sa vie sans prier est comme quelqu'un qui court un marathon sans eau, sans boire d'eau. Il se ressource jamais, il faiblit rapidement et il ne peut finir la course. La prière est essentielle. Même Jacques, au chapitre 4, au verset 2, nous enseigne que Dieu a plusieurs choses qu'il veut nous donner. Il y a plusieurs choses que Dieu veut te donner. Et il attend que tu lui demandes en prière avant de te les donner. Et aussi, Jacques nous enseigne que parfois, nous ne recevons pas parce que nos motifs ne sont pas les bons. Le Notre Père que nous allons voir ensemble ce matin, c'est Jésus qui nous instruit à prier. Un peu de contexte. Le Notre Père se situe entre le chapitre 5 et 7 de Matthieu, dans le chapitre 6. Du chapitre 5 à 7, c'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et le sermon sur la montagne adresse plusieurs sujets comme les clés du bonheur. Comment maintenir de bonnes relations interpersonnelles? Comment éviter de faire le mal? Comment éviter les difficultés financières? Et comment pratiquer une religion qui plaît à Dieu? En fait, Matthieu chapitre 5 à 7, c'est le cours que Jésus donne, qu'on aurait pu intituler « Chrétien 101 ». Et inclus dans le milieu de ce cours, il y a le Notre Père. Juste avant le verset 9, il y a le verset, excusez-moi, juste avant, je me suis trompé, oui, c'est vraiment le verset 9, OK. Il y a un verset juste avant ça, je n'ai pas la référence. Là, ça dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. » Je pense que c'est le verset juste avant, le verset 9. 5, hein? OK. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Jésus mentionne dans le sermon sur la montagne de ne pas faire comme les pharisiens qui prient de longues prières pour faire un spectacle et attirer l'attention sur eux. Il y a une histoire que j'aime beaucoup, c'est dans 1 roi au chapitre 18. Et puis ça raconte l'histoire remarquable de Élie et les prophètes de Baal. Alors du lever du soleil jusqu'à midi, ils prient et invoquent leur Dieu en se coupant et en criant à leur Dieu. On peut dire que leur vie de prière est marquée par plusieurs rites très physiques, très expressifs. Ils s'infligent même des coupures. Élie même commence à se moquer d'eux. Il leur crie, il leur dit, « Criez plus fort! Peut-être que votre Dieu est en vacances! » Il leur dit, « Peut-être votre Dieu est aux toilettes! Si vous criez plus fort, il va peut-être se dépêcher! » Et l'auteur nous dit qu'ils ont continué à invoquer, à prier intensément leur Dieu jusqu'au soir. Élie a fait une prière de 20 secondes et le feu de Dieu est tombé. Il n'y a rien de mal à faire des longues prières, intenses, éloquentes et en public. Mais une chose, les prières longues, les prières intenses, les prières éloquentes, les prières publiques ne sont pas ce qui compte. Les motifs comptent. Au verset 7, on lit « En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Quelle ironie! Jésus nous dit ça juste avant le Notre Père. Puis à ce que je sache, s'il y a une prière qui a été répétée et répétée d'une manière où elle perd tout son sens, c'est bien le Notre Père. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les petites annonces, on dit, puis je l'ai écrit là, j'ai vu ça régulièrement, « Répétez 5 fois « Je vous salue Marie » et 3 fois « Notre Père » 10 jours, avec promesse de publication, et votre souhait va se réaliser. » Avez-vous déjà vu ça? Souvent, on voit ça. Alors, c'est comme si les gens s'imaginent qu'à force de paroles, ils vont être exaucés. C'est comme si le Notre Père s'est rendu une formule magique, et puis on va obtenir ce qu'on veut à force de la répéter et répéter. Ça me fait penser, juste la semaine dernière, je coachais l'équipe de soccer de Zacharie. Et puis, c'est un match important, puis on n'a pas beaucoup de joueurs sur le banc. Alors, juste au début du match, il y a un des joueurs qui dit aux deux autres, il dit, « on va prier pour gagner le match. » Alors, je regarde ça du coin de l'œil. Alors là, les trois jeunes, ils se donnent la main, assis en rond sur le gazon. Et puis, il y en a un qui dit, « Notre Père qui es aux cieux. » Là, je regarde. Il fait tout le Notre Père. Et après ça, il dit, « En tout cas, on va voir si ça commence à mal aller, on le refera. » Alors là, j'approche le jeune, je lui dis, « où t'as appris le Notre Père? » Il dit, « Moi, là, il dit, quand j'étais jeune, je faisais constamment des cauchemars. Intense, ça m'empêchait de dormir. Et mon père m'a enseigné le Notre Père. Et puis, avant d'aller me coucher, je récitais le Notre Père. Et si je me réveillais durant la nuit par un cauchemar, je récitais le Notre Père. Et maintenant, à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose ou que je veux quelque chose, je récite le Notre Père. » J'ai dit, « Ah, c'est très intéressant. Mais je lui ai dit, « Savais-tu que le Notre Père, c'est un modèle de prier. C'est comment on devrait prier. Mais ce n'est pas une formule magique qu'on doit répéter pour obtenir ce qu'on veut. Tu peux demander à Dieu directement ce que tu veux. Ça ferait plus de sens que de répéter le Notre Père. » Alors, le jeune était un petit peu, en tout cas, il réfléchit là-dessus. Alors, voici ce que nous savons. Dieu sait déjà ce que nous avons besoin, même avant que nous lui demandions. Et dans sa grâce, il se retient de nous le donner afin que nous puissions lui demander en prière et que nous puissions réaliser notre dépendance complète et unilatérale sur lui. Alors, j'ai une question pour vous ce matin. Priez-vous. Avez-vous de la difficulté à prier comme moi? Aimeriez-vous savoir comment prier plus efficacement? Si vous avez répondu oui à l'une ou l'autre ou à toutes ces questions, je vous invite à laisser Jésus vous guider, vous aider. Selon Jésus, la prière commence par « Notre Père qui es aux cieux ». Seulement, cet premier aspect de la prière peut faire un changement colossal dans la manière dont on prie. Par « Notre Père qui es aux cieux », on ne doit pas comprendre, on ne doit pas s'imaginer que Dieu est seulement au ciel. Tous les théologiens vont vous dire que Dieu est omniprésent, qu'il envahit tout l'espace, qu'il est dans chaque raccoin, constamment dans nos vies, on ne le réalise pas. Mais Dieu est toujours à nos côtés. Revenons donc à la première phrase, « Notre Père qui es aux cieux ». Pourquoi Jésus insiste sur le fait que Dieu est au ciel quand il envahit tout l'espace? Et la réponse doit être que le ciel est le lieu où se trouve son trône. C'est au ciel que Dieu démontre toute sa puissance et son contrôle sur tout. Le roi au-dessus de tous les rois. Il est au-dessus de tous les gouvernements. Il voit tout, il sait tout, il a toute puissance. Imaginez un jeu d'échecs. Imaginez que chaque pion sur le jeu d'échecs, c'est une personne ici sur Terre. Qui a la meilleure vision de l'ensemble du jeu? Le pion ou le joueur qui est au-dessus et qui voit le jeu au complet? Qui devrait décider quel serait le meilleur jeu, le meilleur mouvement à faire? Celui qui voit l'ensemble complet, qui sait l'avenir, qui a toute la connaissance, qui a toute la puissance pour accomplir son dessein parfaitement. Notre Père est aux cieux. Et nous devons nous rappeler que quand Dieu parle du haut des cieux, sa parole s'accomplit. Rien ne lui résiste. Il est le roi au-dessus des rois et de toute autorité. Rappelons-nous aussi que Jésus nous demande de l'adresser. Le grand Dieu de l'univers qui a toute puissance, Jésus nous dit de l'adresser comme notre Père. Notre Père. C'est cette combinaison des deux aspects de Dieu que nous devons avoir en tête pour bien commencer notre prière. Ce grand Dieu à qui nous prions, qui a toute puissance, qui a toute autorité, te dit « Appelle-moi Père ». Je ne sais pas quelle relation vous avez avec votre Père. Moi, je suis béni que je peux appeler mon Père puis lui demander n'importe quoi. Puis il va me le donner dans la mesure où il est capable de le faire. Imaginez, demandez à Dieu qui a toute puissance quelque chose. Lui demander quelque chose de bien, quelque chose de bon, quelque chose dans sa volonté. Comment est-ce qu'il pourrait se retenir de vous l'accorder? La suite de la prière est en fait 6 requêtes. Que ton nom soit sanctifié. Une autre façon de le dire, c'est que le nom de Dieu soit reconnu comme saint. Ce n'est pas une requête qui revient très souvent. Je ne pense pas jamais avoir prié que le nom de Dieu soit reconnu comme saint. Je ne pense pas avoir déjà entendu quelqu'un prier que le nom de Dieu soit reconnu comme saint. Au fait, qu'est-ce que ça veut dire être saint? Saint veut dire différent, pas commun, mieux que le reste, parfait, élevé, exalté, mis à part. Ma sœur, à son mariage, elle a reçu des assiettes. C'est des assiettes saintes. Ils ont un tour 24 carats. Ce n'est pas le genre d'assiette que tu mets au lave-vaisselle. Ce n'est pas le genre d'assiette que tu sors quand tu manges des hot dogs. Ce n'est pas le genre d'assiette que tu sors un lundi soir. C'est des assiettes différentes, mises à part, mieux que les autres. Saint. Dieu est saint. C'est pourquoi nous n'utilisons jamais le Dieu, le nom de Dieu, comme une expression. Le nom de Dieu n'est pas comme n'importe quel autre nom. Elle ne peut pas être utilisée de cette manière. Sanctifier le nom de Dieu, c'est de glorifier son nom. Et pourquoi nous devons prier ça? Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit reconnu comme étant saint. Dans Nombre 14, au verset 21, « Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplit toute la terre. » Dieu a créé un monde qui reflète sa grandeur et sa majesté. Toute la grandeur de Dieu est reflétée dans la création. Et là, vous allez me dire, « Oui, mais à cause du péché, la création est complètement détraquée. Oui, mais Dieu a même prévu ça. Dans 1 Pierre, on lit que Christ est crucifié. Même avant la fondation du monde, la grâce de Dieu intercepte sa justice à la croix. La grâce et la justice de Dieu s'intersectent pour nous racheter, comme prévu depuis le commencement, et ce, au point culminant de l'histoire humaine. Le programme de Dieu de remplir la création de sa gloire est une chose sûre. Et même si on ne prie pas pour ça, ça va arriver. Dieu nous dit que c'est ce qu'il veut faire. Donc, la question doit se poser, pourquoi prier pour ça? Pourquoi demander à Dieu de remplir la création de sa gloire, de sanctifier son nom, quand on sait que ça va s'accomplir de toute manière? On doit synchroniser notre esprit avec l'esprit de Dieu, notre volonté avec la volonté de Dieu. Notre impulsion doit être de rendre le nom de Dieu saint. Ici, à Gatineau. Parce que c'est le plan de Dieu. Notre cœur est aligné avec le plan de Dieu quand nous prions que ton nom soit sanctifié. Nous devons avoir comme vision de présenter le Dieu saint et glorieux à tout le monde, à toute la population de Gatineau, afin qu'ils doivent décider de le reconnaître comme saint ou non. Ça leur appartient. Mais nous devons présenter ce Dieu saint et glorieux à tout le monde et leur laisser le choix de qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont le reconnaître, se mettre à genoux au pied de la croix ou pas? Prochaine requête, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que tout soit soumis à la volonté de Dieu. Et quand on prie cela, on prie en premier pour nous-mêmes. Que moi, je sois soumis à ta volonté. Aide-moi à faire ta volonté et non la mienne. Je suis deuxième. On a vu les vidéos la semaine passée. Je suis deuxième. Que la volonté de Dieu passe par-dessus ma volonté. Les trois premières requêtes sont des requêtes pour enligner notre volonté avec celle de Dieu. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de prière de choses personnelles, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de demande pour nous dans les trois premières requêtes. C'est seulement des requêtes pour enligner notre volonté avec celle de Dieu, pour nous mettre sur la même page, sur la même longueur d'onde. Une fois que le nom de Dieu est élevé, considéré comme saint et glorifié, nous pouvons demander à Dieu des choses de tous les jours, que Dieu est désireux de nous donner afin de démontrer sa gloire dans notre vie. C'est là qu'on peut prier pour Alan Johnson, Liliane Martin, Michel Desloge, Marie-Josée Brochu, Roger Bacon, Anne-Marie Montgomery, Éric Noël de Tilly, Julie Descoteaux, Rachel Raymond, Marianne Pulsifer et Pierre Lloyd et tous les autres requêtes. C'est maintenant le temps de prier pour la santé de ces gens, pour nos missionnaires, pour nos besoins personnels, pour un travail, pour une chicane, pour un enfant qui s'est égaré, pour la persécution, pour des difficultés. C'est maintenant le moment de prier pour nos besoins, parce que là, notre volonté est alignée avec la volonté de Dieu. Et Dieu est désireux de nous aider avec tout ça. Mais notre focus doit être à la bonne place. Il est difficile de demander les bonnes choses si nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde que Dieu. Zacharie, puis je lui ai demandé de raconter ça, il est d'accord. Il y a quelques semaines passées, il revient de l'école du dimanche, du TE, m'excuse. Il me dit, papa, il dit, tu sais, Dieu répond aux prières. Je dis, oui, tu as raison, Zacharie. Il dit, c'est vraiment vrai. Dieu répond vraiment aux prières. Je dis, ouais, son professeur de TE l'a mis en feu, là. Il dit, papa, il dit, j'ai fait une liste de choses que je veux et que je vais demander à Dieu, et Dieu va me les donner, parce que Dieu répond aux prières. Il dit, « Wow, mon fils, c'est extraordinaire. Est-ce que tu peux me partager tes trois requêtes? » Alors, il dit, « Bien sûr, papa, il dit, la première requête, j'aimerais prier que j'aie beaucoup d'argent. » Okay. C'est quoi la deuxième? Il dit, « Papa, j'aimerais prier que je vais être un joueur de soccer professionnel. » J'ai dit, « Je ne suis pas sûr que je vais entendre la troisième. » Alors, il dit, « Je vais te la dire pareil. » Il dit, « Papa, j'aimerais ça avoir une Porsche. » Ah oui, juste ça. J'ai dit, « Zacharie, est-ce que ces trois choses-là vont t'amener plus proche de Dieu? Zacharie, est-ce que ces trois choses-là vont te transformer pour ressembler plus à Jésus? Est-ce que tu t'imagines Jésus se promener en Porsche? » Je vais y réfléchir. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous vivons dans un pays où l'abondance nous fait oublier la grâce que nous avons de manger à notre faim à tous les jours. Il y a des gens parmi nous ici qui ont assez dans leur compte de banque aujourd'hui pour acheter de la nourriture pour une année complète, pour 5 années complètes, pour 10 années complète. On vit dans l'abondance. Ce n'est pas comme ça dans tous les pays. Il y a des pays où « Donne-nous notre pain quotidien » prend tout son sens. Donne-nous aujourd'hui, donne-nous notre pain quotidien. Parce que si tu me donnes pour demain, je n'ai pas de réfrigérateur pour le laisser dedans, alors ça va pourrir. Alors, donne-moi juste pour aujourd'hui. Je me suis promené dans des pays comme ça où on achète les œufs un à la fois, où on achète le lait en paquet de 250 millilitres parce qu'on n'a pas de réfrigération. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais en définitive, nous avons parce que Dieu nous a donné. Si on a toute cette abondance, si on a toute cette richesse, nous l'avons parce que Dieu nous l'a donné. Et tout ça lui appartient. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien veut dire nous réalisons. Nous réalisons que notre nourriture, mais encore plus, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, tout le fonctionnement de notre système solaire est maintenu en équilibre par Dieu, ce grand Dieu créateur de l'univers. Notre pain quotidien, mais aussi tout ce qu'on a pour survivre, ça vient de Dieu. La vie est possible parce que Dieu la rend possible. Nous sommes dépendants de Dieu pour toutes les choses que nous prenons pour acquis. Là, on commence à toucher une corde sensible ici. Là. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Ça, c'est la partie facile. Deuxième partie, c'est plus difficile. Comme nous, aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La confession de nos péchés nous amène dans un état d'humilité. C'est un miroir qu'on a dans notre face. Puis on réalise à quel point on n'est pas parfait. Pardonne-moi pour ça. Pardonne-moi pour ça. Pardonne-moi parce que j'ai aussi fait ça. Puis pardonne-moi aussi pour ça. Puis ça. Puis on n'a pas besoin de réfléchir trop longtemps. On a beaucoup à se faire pardonner. Et quand on confesse nos péchés, nos offenses, et Dieu est fidèle et bon pour nous les pardonner, nous purifier, on comprend qu'est-ce que ça coûte de pardonner, que Dieu nous pardonne. Qu'est-ce que ça lui coûte? Puis là, on est un petit peu plus enclin à pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Il y aurait beaucoup à dire, mais j'aimerais résumer en une phrase. C'est Dieu qui nous donne la victoire sur toutes les situations difficiles. Il a l'autorité, la puissance nécessaire et il est intemporel. Il n'y a pas de limite dans le temps. C'est à Dieu qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Encore aujourd'hui, c'est à Dieu qu'appartient le règne et la puissance dans notre siècle. Amen. Amen, c'est la fin de la prière. Alors, on a traversé le Notre Père, mais il y a deux autres versets qui suivent immédiatement le Notre Père. Parfois, notre réflexion est de se détourner de Dieu dans les moments difficiles. Cette tentation prend racine quand notre Dieu est trop petit, pas assez glorieux. Alors Jésus te rappelle que c'est à Dieu qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. La victoire appartient à Dieu. Et maintenant, on rentre dans les deux versets qui suivent immédiatement après le Notre Père. Jésus nous dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est un verset difficile. Et si vous êtes comme moi, vous vous dites, si c'est appliqué d'une manière stricte, qui peut subsister? Qui peut être pardonné? Rappelez-vous quand nous avons commencé, on a parlé de faux motifs dans la prière, des pièges. Parfois, la prière est une manière de justifier notre péché, notre méchanceté. Jésus raconte l'histoire d'un collecteur de taxes et d'un pharisien. Le pharisien remercie Dieu de ne pas être comme le collecteur de taxes, qui était un grand pécheur. Parfois, on est si proche de nos offenses qu'on ne les voit même pas dans le moment de prière. Le pharisien remercie Dieu pour plein de choses. C'est très spirituel. Il remercie même Dieu d'être meilleur moralement parlant que le collecteur de taxes. Mais il se trompe lui-même. Son cœur n'est pas bon au point où il pense. En fait, son cœur est tortueux. On doit demander à Dieu de nous révéler nos péchés. On doit les confesser et on doit aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et puis peut-être pour moi, c'est facile de dire ça. Mais peut-être que pour vous, c'est beaucoup plus difficile. Peut-être que pour vous, vous avez des choses beaucoup plus énormes à pardonner. Et je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Et je ne suis pas en train de dire que des fois, en simplement regardant tous les péchés que nous avons commis et toutes les fautes que nous avons commis, ça va nécessairement rendre le tout plus facile de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Mais Dieu insiste que l'on pardonne. Et dans la prière, on peut demander à Dieu de nous donner cette force de pardonner. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui pensent que beaucoup de dépression, beaucoup de maladies mentales, beaucoup de problèmes de psychiatrie prennent leurs racines dans les gens qui n'arrivent pas à pardonner. Pardonner, c'est essentiel. Et ça peut se faire par la prière. Le mal qui nous a été fait, même les très grands mâles qui nous ont été faits, doivent être pardonnés. Et Dieu est fidèle et bon de nous pardonner nos fautes. Mes chers amis, la prière est une activité humaine avec des pièges et des mauvais motifs. Voilà pourquoi Dieu nous donne un modèle de prière qui nous aide à éviter de tomber dans ces pièges. La prière mène toujours à une place d'humilité où je réalise mes grandes faiblesses et ma dépendance unilatérale sur le Dieu de l'univers qui me dit « Appelle-moi Père ». J'aimerais, si vous le voulez bien, que vous preniez le texte et puis qu'on lise tous ensemble le Notre Père en conclusion. Alors, dans Matthieu 6, au verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Merci.